France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un artiste qui a réussi quelque chose d'assez rare, rendre l'électro à la fois festive, décalée et profondément humaine. Vous l'avez peut-être déjà vu derrière ses platines dans un club en train de performer au cours d'un festival ou même dans une vidéo du youtubeur star Squeezie. Mais derrière cette image solaire, il y a surtout un vrai producteur, un mélodiste et un artisan du son. Il a commencé avec Club Cheval, a traversé le label culte Bromance, a trouvé une maison solide chez Headbanger et s'est imposé comme l'un des visages les plus attachants de la scène électronique française. Son nouvel album Midnight confirme cette identité unique entre émotion et fête, entre l'intime et le collectif. On va parler de sa musique, de son parcours, de ses collaborations, mais aussi de cette envie qu'il a toujours eue, faire danser les gens sans jamais se prendre trop au sérieux. Ce soir, on reçoit Mid et je suis très heureux. C'est parti pour une heure à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Mid.
Salut. Comment de retour, hein, on avait déjà fait une interview il y a bien longtemps.
On a fait
deux.
Une interview il y a bien longtemps sur un média qui s'appelait OKLM.
Ouais.
Exactement, dans une émission qui s'appelait La Sauce. Ouais. Et là, on se revoit, car depuis, il s'est passé plein de choses pour toi à l'époque. Tu n'avais même pas sorti de premier album à l'époque.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, tu as sorti le deuxième, Midnight. Ouais. Mais avant ça, on va retracer un petit peu le parcours quand même. Tu viens du nord de la France et tu as étudié le son à la base, toi.
Ouais.
On peut dire que tu as une formation d'ingénieur du son ?
Je le suis, je le suis même.
Tu l'es, complètement. Tu as fini les études, tu as fini la formation, toi.
J'ai fini le sound engineering game. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur du son. C'est vrai que c'est ce qui me passionnait à la base. Enfin, j'ai toujours fait de la musique, mais je viens de faire un bruit d'ingénieur du son.
Ouais,
je sais pas si vous l'avez
exactement.
Vu au micro.
Il a cogné sa montre contre un verre et ça fait quelque chose d'assez joli, en fait.
Et donc, j'ai toujours été passionné de son, et quand il y a été question de faire des études, j'avais envie d'apprendre des choses, et d'être spécialiste dans le domaine du son, et j'étais déjà passionné de musique et de son, et je me suis dit faut que j'apprenne c'est quoi un micro, comment on enregistre un son et comment devenir spécialiste de ça. Donc je me suis lancé dans de longues études de son.
Quel lien ça a aujourd'hui avec la musique que tu fais? Est-ce que, j'imagine que oui, mais dans quelle mesure tu utilises cette formation pour produire ta musique aujourd'hui?
Il y a deux choses. Il y a d'un côté, forcément, en sachant bien utiliser un outil, donc ça va être un micro, comprendre comment fonctionne un synthétiseur, comment enregistrer une voix, les différents périphériques que tu peux utiliser. Déjà, bien connaître ton outil, et c'est comme si tu es dessinateur et que tu sais bien tenir ton stylo, tu vois, ça paraît être la base, mais pour moi, c'est pratique pour mettre mes idées à plat. Et j'ai fait 4 ans à la FEMIS. Et à la FEMIS, j'ai aussi appris à terminer un projet.
Qui est une école de cinéma.
Une école de cinéma où j'étais aussi en section son. Et on nous apprenait à terminer un projet, à travailler en équipe, à allier l'art et la technique aussi. Et c'est sûr que, j'y pense pas tous les jours, je pense pas à mon cours de 8h du matin le lundi, mais je sais qu'en moi, ça a sûrement construit mon cerveau pour être peut-être un meilleur artiste, je dirais.
Avant de te lancer en solo, tu étais dans un groupe qui s'appelle Club Cheval. Ça, c'est un extrait du morceau Discipline, qui était aussi le nom de l'album, d'ailleurs, que vous aviez sorti. Qu'est-ce que ça t'a appris, l'expérience de groupe comme ça?
Pour moi, ça a été mon école militaire à moi. Ça m'a appris, justement, je sors d'école, en parallèle de l'école, moi, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours eu des groupes. Donc, au début, ça restait le week-end, j'allais de plus en plus en tournée, j'allais de plus en plus jouer dans des clubs, à tel point qu'un jour...
C'est vers quelles années, ça?
Ça, c'était vers 2008...
Fin des années 2000.
Ouais, c'est ça. Fin des années 2000. Et donc, je me retrouve avec ce groupe en parallèle qui me prennent de plus en plus de temps et qui montrent aussi que la musique peut être un métier. Et d'ailleurs, ouais, pour l'anecdote, à l'école, ça commence à un peu les saouler que je demande à partir de plus en plus tôt, que j'arrive de plus en plus tard le lundi matin. J'adorais ce qu'on apprenait là-bas, mais forcément, l'amour de la musique, l'amour des clubs, de faire danser les gens, ça m'excitait déjà.
Juste, t'étais jeune, donc j'imagine qu'il y avait quelque chose d'assez grisant aussi dans le fait d'être en club tous les week-ends.
C'était mon rêve. C'était mon rêve depuis que j'ai 13 ans, quoi. Et donc, un jour, il y a eu conseil, un équivalent, je ne veux pas dire conseil de discipline, parce que c'était moins impressionnant que ça, mais je me retrouve face à mon prof qui, lui, était un mixeur et un mixeur star, et qui me dit, mon cher Quentin, maintenant, il va falloir choisir, c'est soit le cinéma, soit la musique. Et donc, j'ai appelé mes parents comme un bon enfant que je suis et étudiant que j'étais. Et je leur dis, bon, bah, je vais arrêter. J'appelle mon père exactement. Et je lui dis, bon, bah, je pense que j'arrête l'école et que je vais aller en tournée. Et il me dit, si tu arrêtes l'école, je te déshérite. Sachant qu'il n'y avait pas d'héritage en jeu, c'était une manière de
c'est
dire.
C'est une manière de te faire peur, mais et ça ne fait
dit,
pas vraiment peur.
Il m'a, dit, non, mais il m'a dit, t'es bien con si t'arrêtes l'école, parce qu'il te reste quelques années et toute ta vie, ça te servira. J'ai pas arrêté l'école, je suis allé jusqu'au bout. Et en fait, c'était une tournée parmi des dizaines d'autres qui a eu lieu après. Oui. Et j'ai bien fait de ne pas arrêter, parce que cette école, d'une certaine manière, elle a changé ma vie. Comme je disais, elle a construit qui je suis maintenant. Et ce groupe n'existe plus et la vie continue.
Alors, tu as fait plein de choses et tu as notamment aussi produit, ça on le sait un peu moins, dans le rap, notamment un des plus grands classiques de ces 10 dernières années, Champs-Élysées de SCH.
On vient de loin, si loin, aujourd'hui on rôde en gamme sur les champs, je n'ai pas loué.
Donc ça, c'est extrait donc de Champs-Élysées, de SCH, présent sur la mixtape A7, qui sort en 2015. Et donc, c'est une époque aussi où toi, tu as déjà le bagage Club Cheval, tu es quelqu'un de reconnu, vous êtes un groupe reconnu sur la scène électronique, et là, tu commences à travailler avec Kor, si je ne dis pas de bêtises, qui est crédité aussi à la production de ce morceau, qui est un producteur très important dans la musique rap. Comment toi, tu commences à intégrer, on va dire, l'univers rap, et avec notamment SCH?
Bah, c'est plutôt que c'est Kor qui a l'ouverture d'esprit de toujours aller chercher et d'aller demander aux personnes extérieures, aux personnes nouvelles, parce que le rap a toujours besoin de fraîcheur, ça va vite et on a toujours envie de la nouvelle idée que personne n'a encore eue, hein, que ce soit en termes de flow, en termes d'instru et donc en termes de DA même. Et donc là, Kor, on lui avait déjà demandé pour Club Cheval, parce que nous on était vraiment quatre gamins et on avait besoin d'un adulte et d'un parrain qui nous aide à terminer cet album qu'on n'arrivait pas à terminer. Et on s'est dit, mais qui est le meilleur producteur en France? Et pour nous, c'était DJ Kor.
C'était Kor.
On l'adorait. Donc on est allé taper à la porte de son studio et Kor nous a dit, les amis, moi j'ai pas le temps, je suis occupé, mais j'adore votre projet. Donc ce que je vous propose, vous vous installez dans mon studio et quand je serai là, bah, je bosserai dessus. Et c'est ce qui s'est passé.
Donc Kor a travaillé sur Discipline de Club Cheval.
Tout à fait. Ah mais Kor a bossé, il est crédité à tous les morceaux de l'album Discipline et il nous a aidé, il a produit, il a réalisé cet album quoi. Avec nous forcément on était quatre producteurs aussi, donc ça faisait beaucoup de cerveaux en commun, mais on a réussi à le terminer. Et donc forcément on passait tout notre temps dans ce studio. Et un jour, donc, je suis en train de tester un nouveau synthétiseur, donc passionné de synthé. On en avait beaucoup avec Club Cheval, on en a toujours beaucoup. Kor passe par là et dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Fais-moi écouter. Et il dit, bon, bah, je suis en train de bosser sur ce gars qui s'appelle SCH. À l'époque, il m'avait...
Un jeune Marseillais
qui avait justement ce truc où on n'aurait pas pu imaginer quand il y avait des morceaux comme La Mallette, par exemple.
Oui, c'était un des premiers morceaux d'SCH avant qu'il soit connu.
C'était un morceau de rap indé, quoi. Et donc on se retrouve, il nous dit, bah, y a ce mec qui s'appelle SCH, moi j'y crois, et Kor, on lui faisait déjà confiance, on avait déjà vu, on le respectait, on respectait ses goûts et surtout sa vision, quoi. Et il me dit, bon bah vas-y, fais-moi écouter, ok, vas-y, enlève cette piste, vas-y, mets cette piste, ok. Et là, Kor, la classique de DJ Kor, hein, et d'ailleurs quelque chose que je lui ai emprunté, il prend son dictaphone sur son téléphone, il se met à enregistrer une top line qui est une mélodie de voix,
oui.
Et on commence à entendre le « pas loué, pas loué ». Et il se met à fredonner ça. Le morceau disparaît dans... Nous, moi, je bossais plutôt la journée et Kor travaillait la nuit. Hein, studio de rap oblige. Et un matin, on arrive au studio et il nous fait écouter ce morceau. Bon, forcément, on ne sait jamais qu'un hit est un hit, oui, avant un hit, et on ne connaissait pas... on n'avait pas forcément imaginé qu'il deviendrait et que SCH deviendrait qui il est. Mais voilà, c'est ça, l'histoire raconte la suite.
Bon, on est avec Mid en tout cas. Tu viens de sortir l'album Midnight. Ce vendredi, on va en parler évidemment. On va revenir aussi retracer ton parcours. Mais on parlait de Marseille. On va écouter tout de suite une collaboration entre un Marseillais et Théodora. C'est le morceau Zoubizou, le titre qui réunit donc Théodora et Jul, un morceau présent sur Mega BBL, la réédition de l'album de Théodora, sur laquelle on retrouvait, en plus de Jul, Luigi, Juliette Armanet ou encore Chili Gonzalez, les Avengers hein, finalement. Théodora et Jul, Zou, Bizou, présents sur Mega BBL.
France Inter. Mehdi Maizi, à la régulière.
Nous sommes avec Mid aujourd'hui, qui a sorti Midnight, ton deuxième album, ce vendredi. Et on retrace un petit peu ton parcours, évidemment, on va vite, puisqu'on est passé rapidement sur Club Cheval, sur tes productions dans le milieu du rap, et pas que d'ailleurs. Et puis il y a aussi eu un premier album qui a été porté par un morceau, notamment un morceau qui est devenu absolument inévitable, The Sun. Un morceau inévitable, moi le dimanche souvent je suis en famille et je lance la playlist Bonne Humeur sur ma plateforme et il y a toujours The Sun au détour d'un morceau, voilà, qui apparaît comme ça. Est-ce qu'on en a marre d'un morceau comme ça au bout d'un moment?
Non.
Non.
Non, franchement, moi j'en suis fier.
Ouais, fier, mais,
non, mais
il
j'en
a tellement
suis fier,
été joué.
Ouais, mais tu sais, je suis sûrement une des personnes qui l'écoute le moins, quoi, au final.
Oui.
Je veux dire, je l'écoute peu, je le joue de moins en moins en DJ set parce que je joue dans des clubs de plus en plus de musique électronique 100%. Donc
un peu plus pointu peut-être quelquefois.
Ouais,
avec
peut-être.
Nous.
Donc en live, je le joue évidemment. Hein, c'est un grand moment du show, mais c'est une version remixée du coup. Mais donc ouais, non, moi j'en ai pas marre et je suis. Tu sais, c'est le genre de morceaux, au contraire, qui m'ont permis d'avoir la confiance. Et quand t'as un peu l'impression d'être perdu, tu reviens à ça et à ces choses qui ont fait quitter, qui ont fait ta carrière. Et ça en fait partie. Donc non, j'en suis fier. J'en suis super fier.
Je trouve qu'il y a quelque chose qui a été marquant aussi quand on a commencé à t'écouter en solo, c'est que la musique de Club Cheval, elle était assez sombre. Je la trouvais même parfois presque dure. parfois, même dans l'univers, dans l'esthétique. Et toi, il y a ce morceau-là, mais c'est encore le cas sur Midnight, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, plus solaire. Est-ce que tu vois un peu cette différence-là? Est-ce que c'est peut-être toi, ta personnalité aussi, qui est un peu plus comme ça, qui était peut-être la lumière au sein de Club Cheval, qui était un groupe qui me semblait un peu plus dur, moi, dans la proposition artistique?
C'est vrai qu'on était plutôt sombre et un peu plus R&B, donc il y a un côté dans le R&B qui est un peu plus compliqué. Je vais pas dire complexe en termes d'accord, parce que c'est aussi ce que je recherche dans mes morceaux, mais en tout cas c'est sûr que mon projet solo, une des premières décisions qui a été quand j'ai voulu faire mon projet solo, ça a été d'exprimer ce que j'avais mis de côté pour le bien du groupe. Donc il y a eu un an à la fin du groupe, en fait, entre notre dernière tournée qu'on a terminée aux États-Unis, je suis rentré, j'ai passé un an en studio à un peu refaire le bilan et me dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter dans ma musique, comment je fais. Et donc par exemple il y a un classique, je voulais des guitares absolument, et j'étais fan de pop californienne, de folk californienne, tu vois, il y a des albums que j'écoutais en boucle et j'avais jamais pu mettre ça dans le groupe parce que ça correspondait pas à l'esprit du groupe. Et donc j'ai invité un guitariste qui a fini par dormir chez moi d'ailleurs pendant quasiment un an.
Ouais, c'est vrai.
Mon studio était chez moi, donc à un moment, ouais, c'était plus facile. Et donc on a fait il y a The Sun qui en est sorti, mais en effet ça a été un moment, en tout cas pour moi, de, tu sais, c'est comme quand quelqu'un quitte une relation et tu fais mais c'est marrant, j'avais jamais vu ça chez toi. Bah tu fais bah ouais, en fait c'est, j'avais mis de côté, je m'étais adapté aussi à cette relation. Pas que cette relation était toxique ou qu'elle était mauvaise, c'est juste qu'on s'adapte à être entre humains. Et à des moments, la liberté, elle te permet d'exprimer des nouvelles choses. Et je pense que pour la première fois, avec mon projet solo, je m'exprimais à 100%.
Tu as fait beaucoup de choses et tu as aussi produit, notamment, sur le premier album de Squeezie.
Fais des buts, dis des trucs débiles. Merci les conventions pour les filles. Addiction face aux chiffres qui défilent. Quel plaisir d'être enfin devenu.
Donc c'est le premier album de Squeezie, c'est un extrait, en tout cas le morceau s'appelle Influenceur comme on l'entend. C'est d'ailleurs aussi, on sait, un de tes amis, d'ailleurs nous avions tous les deux été invités dans une des vidéos de Squeezie, ouais, il y a longtemps. Est-ce qu'on se pose la question aussi quand un youtubeur comme ça se fait à la musique, est-ce que je t'ai posé des questions sur des histoires de crédibilité, est-ce que je dois le faire, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas du tout?
Sur son album, non, je me suis pas posé la question parce que j'ai plus fait l'album d'un ami plus que l'album d'un, oui, youtubeur. C'est peut-être là.
Vous étiez proche avant justement l'album.
Ouais. En fait, nous on s'est vraiment rencontrés par hasard une soirée où je jouais à Cannes. Il y a 4 personnes sur les dance floor. Soirée de marque. Les DJ reconnaîtront ce genre de soirée. de moins en moins maintenant. Maintenant, les soirées sont remplies et j'ai de la chance. Mais en tout cas, à l'époque, il pouvait y avoir des moments comme ça. Et une des 4 personnes, c'était Squeezie. Et j'avais vu qu'il était venu au concert de Justice. Avec son frère qui était fan de Justice, et donc je me suis permis d'aller le voir en lui disant ah salut mortel, moi je regarde tes vidéos, et au début, donc pour l'anecdote, il vient et il me fait genre ah merci frérot, tu veux qu'on prenne une photo, c'est ça? En fait il capte pas du tout ce que je lui dis avec la musique et tout, et il fait non mais en fait tu sais être banger, et je lui explique et il, ouais, fait genre ah mais mortel, et il a changé depuis, mais je retourne mixer et là il y a une des personnes qui travaille avec lui qui lui dit Squeezie aimerait vous rencontrer à Paris la semaine prochaine. Et donc je fais ok, pas de problème. Et donc on est allé déjeuner ensemble à l'époque à Levallois, et on est devenus super amis. Okay. Parce qu'en fait, il avait plein d'histoires sur YouTube qui me plaisaient, oui, et sur sa vie. Ouais. Et moi, plein d'histoires à lui raconter sur le monde de la musique. Et vu qu'on est tous les deux de très grands papoteurs, on est devenus amis. Et donc forcément, quand il a commencé à vouloir faire de la musique et bosser sa musique, j'ai dit ok. Et voilà ce qui est arrivé.
Mais sur cette production, il y a aussi quelque chose qui me semble, moi, très house années 90. Et c'est quelque chose qu'on ressent aussi même sur ton album. Parce qu'un amour pour certaines productions très lumineuses des années 90, cette house musique-là. Est-ce que tu as un amour pour ce genre-là, cette période-là?
Ouais, c'est déjà, d'un côté, c'est la musique qui m'a toujours bercé. C'est la musique qui m'a donné envie de faire de la musique. Quand j'avais 14-15 ans, quand au collège et au lycée, les personnes écoutaient du métal, du punk, Blink 182, etc. Moi, j'écoutais Chemical Brothers, Fatboy Slim, j'écoutais The Prodigy, et c'était mon punk à moi. Et c'est ce qui a fait qu'au lieu d'acheter une guitare comme premier instrument, j'ai acheté des platines. Donc, et aujourd'hui, j'ai la chance qu'à chaque fois que je touche à un morceau ou je travaille sur un morceau, ça sonne comme ma musique. Donc, même dans l'album de Squeezie, en fait, on pourra retrouver certains sons, certaines... Il y a ma patte, quoi.
En tout cas, on est avec Mead qui vient de sortir Midnight. Et Midnight, il y a plusieurs morceaux sur Midnight, notamment un morceau qui s'appelle So High. Mead, c'est quoi la recette pour produire un bon morceau pour danser?
Oh, wow.
Est-ce qu'il faut beaucoup sortir? Est-ce qu'il faut savoir danser? Est-ce qu'au contraire, on peut juste être un rat de studio et pouvoir faire ça?
Je pense qu'on peut être un rat de studio, mais il va peut-être manquer un peu de transpiration. Il faut avoir vu un public, je pense. Peut-être pas forcément avoir été sur scène, ça aide quand même. Mais ouais, il faut avoir vécu ce moment de club, comprendre cette base qui est que quand on coupe les basses, les personnes sont tristes, et quand on remonte les basses, les personnes sont joyeuses. Ouais. Mais ouais, ça, évidemment que ça peut aider d'être sur le terrain. Je dirais presque que c'est essentiel, au moins aller voir par curiosité.
Est-ce que t'as ça en tête quand tu produis le club, la piste de danse, le dance floor? C'est quand même quelque chose auquel tu penses lorsque tu produis?
Non. Je fais d'abord de la musique pour moi et le public, c'est quelque chose que je leur délivre après. La musique que j'ai faite et l'album, par exemple, Midnight, c'est plus des restes de ce que j'ai vécu en club pendant les 3 ans de tournée qui ont précédé le moment où je me suis enfermé en studio, plus que penser absolument à est-ce que telle personne dans tel club dans le monde va aimer ce morceau quand je vais le jouer. C'est plus me dire comment j'aurais fait au moment où j'étais dans le club pour que ce soit vraiment encore plus la fête. Tu vois, je pense c'est plus des souvenirs du passé qu'une projection vers le futur. Ouais.
T'as connu deux labels, on peut dire, assez mythiques, en tout cas cultes, dans le paysage électronique français. Bromance, qui était le label de Brodinski, Headbanger, label monté bien sûr par Pedro Winter, DJ Medi, qui est un label absolument culte. Qu'est-ce que ça t'a apporté de rencontrer ces deux maisons-là? Parce que quand on a beaucoup parlé, bien sûr, je vais pas de refaire le couplet sur la French Touch, et puis la French Touch 2.0, etc., etc. Mais ce sont quand même des maisons qui sont assez iconiques, même si Bromance a duré moins longtemps, mais qui a quand même marqué aussi les années 2010 de son empreinte. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de faire partie de cette histoire-là?
C'est le point commun entre les deux labels, c'est que c'est au-delà de labels, c'est des familles. On a des rapports les uns aux autres qui sont plus que de l'amitié. On n'est pas du tout des collègues. On s'est tous entraidés. On a tous produit les uns pour les autres, ou du moins donné des conseils, voyagé ensemble. La musique électronique, c'est aussi beaucoup de tournées, donc passer beaucoup de temps tous ensemble. Donc il y a intérêt à ce qu'on s'entende bien.
Oui, oui.
Ce que ça m'a donné aussi, forcément, c'est une confiance. Et principalement, dans la production, c'est deux labels. Bromance était le label de Brodinski, mais aussi de Manu Baron, qui était mon premier manager, et le manager de Club Cheval aussi. Pedro Winter donne aussi beaucoup son avis artistique. Et c'est deux personnes qui m'ont appris à être... un artiste plus épanoui et plus heureux, dans le sens où ils m'ont toujours dit ça va paraître un peu cheesy, ce que je vais dire, mais sois toi-même, fais ce que tu veux, la musique avant tout, et ça a changé ma vie. Parce que quand on entend, pour avoir un peu à des moments, particulièrement avec Club Cheval, on est allé un peu traîner du côté des majeures compagnies, etc., je suis pas sûr que ça ait fait du bien à notre créativité et à notre bien-être.
Ah, t'as l'impression qu'à un moment, vous avez perdu quelque chose en fricotant d'un peu trop près avec les majors, peut-être.
j'ai l'impression. Et c'est pas pour cracher sur le modèle. C'est plus que nous, en tant qu'artistes indépendants, mais je dis indépendants dans le côté de la musique indie, c'est-à-dire la musique où on a envie de faire des choses différentes, où on est soit toujours un peu en retard, soit toujours un peu en avance. Ça dépend du point de vue de chacun. Mais quand t'es dans un schéma plus commercial, je pense pas que ça te corresponde. Et je pense que d'ailleurs, le vrai problème, c'était nous, parce que on s'est un peu brûlé les ailes à vouloir se dire qu'on voulait niquer le game. Alors qu'en fait, on aurait dû tout simplement se dire faisons la musique qu'on aime, comme on a toujours fait. Le jour où on a commencé à se dire, à penser justement un peu trop à qui va écouter, sur quelle radio il faut que ce soit, quel public on veut toucher, là je pense qu'on a commencé à
perdre quelque chose. Peut-être.
Ouais.
T'as parlé d'artiste indie, mais j'ai aussi le sentiment que la pop, ça te fascine, et parfois même la pop, tu la remixes, comme ça a été le cas avec ce morceau de Dua Lipa et d'Angel Fever.
La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi.
Donc ça, c'est ton remix donc de Fever, le tube de Dua Lipa et Angel. Et l'art du remix, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans la musique électronique. On remixe des morceaux. Quel rapport t'as du coup avec d'abord l'art du remix et aussi avec la pop musique? Parce qu'on peut pas te qualifier comme un artiste pop, mais en même temps, pourquoi pas? Parce que finalement, The Sun, c'est un tube pop. Et j'ai ce sentiment-là que t'es quand même fasciné, t'es observateur de ce qui se passe dans la pop musique. T'es attiré par ça quand même.
Bah, j'essaie en tout cas, j'ai la chance que The Sun soit devenu un tube, et en même temps ça c'est parfait pour prêcher ma parole, qui est le fait qu'on ne décide pas de ce qu'est un tube, quoi. C'est-à-dire, en tant que musicien, on ne fait pas un tube en studio, c'est le public qui décide de à quel moment c'est un tube. Et le nombre de fois où j'entends en studio « Ah, mais ce morceau-là, je te le jure, c'est un tube. Ah non, mais on devrait le faire un peu plus tube. » Je pense que c'est l'erreur numéro un. La preuve est de The Sun. Pour l'anecdote, et je ne crois pas que je l'ai déjà raconté, mais l'idée de The Sun, à la base, c'est un fantasme que j'ai depuis mes 16 ans, quand j'ai écouté Eya de Outkast.
Waouh.
Donc j'ai toujours adoré Outkast. C'est un groupe qui m'a énormément inspiré. Le groupe lui-même, la musique me plaît, les personnages me plaisent, la manière de produire, le côté ambitieux. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur Outkast, on pourrait en faire une émission entière. Et donc sur Eya, la particularité, je vais rentrer dans quelque chose de technique, c'est que le nombre de mesures n'est pas pair. Donc en fait, normalement, dans un morceau, il y a quatre accords de l'un, quatre accords de l'autre, et les boucles sont pairs, particulièrement dans la musique électronique, important pour la suite. Et avec un ami avec qui je travaillais à l'époque, je lui dis, moi, mon rêve, c'est de faire un tube, mais pas avec le bon nombre de mesures, comme Eya de Outkast. Okay. Je ne compare pas...
Sun à Eya,
mais...
Mais.
et donc ce morceau The Sun, je me dis, putain, ce serait assez marrant de se dire, mais si on lui a rajouté, parce que je pense que ça sonne mieux, et si on s'en foutait en fait que ce soit 5 mesures au lieu de 6, j'ai dit 5 mesures au lieu de 6, bon, on s'entend.
Oui, un pair au lieu de pair.
Et je me retrouve avec ce morceau qui devient ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est assez génial parce qu'en fait, du coup, c'est encore moins moi qui ai décidé que ce soit un tube. C'est bien le public qui, à un moment, il se lève le matin, il est en le week-end comme toi de chez lui ou n'importe où dans sa vie, et il a envie de mettre play sur The Sun plutôt que sur un autre morceau. C'est juste qu'il ressent une émotion qui lui plaît, et je trouve ça génial. Et c'est là où je vois la pop musique, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas tout simplement faire quelque chose qui procure des émotions, faire de la musique et de l'art qui procure des émotions? Pop, c'est peut-être quand ça procure de l'émotion et une émotion commune à plus de gens. Mais en tout cas, là où je me considère pas artiste pop, c'est que quand je suis en studio, je fais ce qui me plaît et ce que je trouve instinctif, et pas essayer absolument de plaire au maximum de gens, quoi.
En tout cas, The Sun était un tube, et peut-être que le morceau qu'on va écouter en sera un aussi. Et je te propose d'ailleurs de l'annoncer toi-même, parce que j'ai plus envie de faire mon travail. On va écouter le morceau Song For You. Tu as 15 secondes pour le présenter.
Salut à tous, c'est Mid sur France Inter. Écoutez mon nouveau tube The Sun.
Non, Funk for You.
Oh, j'ai dit The Sun. Ah là là, j'ai raté. Bah voilà, tu vois, tu fais mieux ton métier que
oui,
que
je fais. Je garde mon métier. Mid, Funk for You. Je garde mon job.
Mid Song for You présent sur Midnight.
France Inter, Mehdi Maizi à la régulière.
Nous sommes avec Mid qui vient donc de sortir Midnight et nous parlions de pop avant le morceau. Et donc, comme chaque semaine, je te propose un petit détour par l'actualité pop. Tu me dis ce que t'en penses, ça t'inspire okay. Quelque chose. Quelques actualités que moi j'ai repérées. Et on commence avec ce mercredi, M6 qui diffuse un documentaire intitulé « Céline Dion raconte 2 ». D'EUX. Pour rappel, 2, c'est sorti en 1995 et c'est l'album francophone le plus vendu de tous les temps. Génial. Plus de 10 millions d'exemplaires écrits et composés par Jean-Jacques Goldman. Donc, tu voulais intervenir, Mid?
Ah, j'ai dit tube. J'ai juste dit le mot tube pour le coup, tube.
Évidemment.
Tube, excellent, excellente chanson. Anecdote, Céline Dion est née le même jour que moi, le 30 mars.
Waouh!
Pas de la même année,
mais. Une lignée royale! Est-ce que c'est une artiste que t'as écouter forcément peut-être quand t'étais enfant?
Bah je l'écoute, c'est le genre d'artiste où tu les écoutes malgré toi, oui. Et forcément ils font partie de ta vie, mais ouais, moi je respecte la carrière internationale, j'aime beaucoup son changement de style de moins en moins récent, mais oui. Récemment où elle s'est mise à devenir une fashion icon, ouais. C'était assez excellent.
En full Balenciaga.
J'apprécie. J'aime beaucoup le personnage, ouais.
Ok. Alors, du côté des nouveautés, Ed Sheeran revient avec un nouvel album intitulé Play, prévu pour le 12 septembre. C'est déjà l'un des projets les plus attendus de la rentrée.
Bon, le nom de l'album déjà, on...
Play, oui.
Alors, il y a Play, il y a Swag.
C'est Justin Bieber.
Après, donc, on est habitué du fait qu'il ait des albums, des noms d'albums de merde, mais pourquoi pas, vu que la musique est...
Est-ce que t'aimes bien Ed Sheeran, qui est vraiment, je le rappelle, c'est le premier artiste à avoir dépassé les 3 milliards de streams à l'époque avec Shape of You en 2001 sur Spotify, donc c'est un des recordman de l'ère du streaming. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu écoutes?
Est-ce que j'aime? Non, je m'en fous, mais je reconnais quand même qu'il est assez ultime en tant que mélodiste. Et en tant que songwriter,
oui.
Et ça forcément je salue l'artiste. non je salue l'artiste sincèrement, parce qu'à un moment on a beau dire tube pas tube, une bonne mélodie, c'est par là qu'on commence à toucher le public. Donc,
Shape of You, c'est assez imparable quand même. Shape of You,
c'est un morceau parfait,
ouais.
dans son genre,
on est d'accord. De toute façon, qu'on soit d'accord ou pas, le monde entier est de cet avis, donc, vu les chiffres.
Mais pour répondre à ta question, non, je n'écoute pas Ed Sheeran, c'est pas particulièrement ce qui me touche, mais je suis touché par son talent de songwriter.
Est-ce que t'as des passions honteuses?
Ouais, bah bien sûr.
Comme moi, quoi?
Grand fan de Will.i.am et des Black Eyed Peas, par exemple.
C'est vrai que c'est devenu honteux. Ça l'était même déjà à l'époque, oui, c'est vrai.
Bon, pas de leur premier album. Hein,
Non. Le début, au tout début, c'est un groupe même assez qui est inspiré par U2 Tribe Called Quest. La première version des Black Eyed Peas, c'est pas du tout ce qu'on a connu dans les années 2000, bien sûr.
Je pense que c'était un des seuls groupes pas électroniques que j'écoutais, par exemple.
Ok.
Et j'ai toujours été surexcité par le travail de Will.i.am. Il avait des albums instrumentaux géniaux. Et j'ai eu la chance d'aller en studio une fois avec lui, avec Naskid, que vous retrouvez sur Twitch. On a eu la chance d'être en studio avec lui. Il était très impressionnant et j'ai été conforté par son talent et de pareil, mélodiste, produceur. C'était génial.
Bon, il y a une autre actualité dont je voulais qu'on parle rapidement, c'est le lancement d'une série qui s'appelle The Paper, une comédie dans l'esprit The Office, la série culte portée par Steve Carell. Est-ce que The Office, t'étais fan? J'imagine que oui. Là, je vais t'avoir. Je t'ai pas eu avec Ed Sheeran. Est-ce que je vais t'avoir avec The Office?
Ah, tu pensais m'avoir avec
Non, je savais que j'allais pas t'avoir, mais j'avais envie de parler d'Ed Sheeran.
Non.
Mais je savais que c'était pas ta cam.
The Office, ouais, bien sûr, classique.
Et donc
classique
là, The Paper, est-ce que t'as entendu parler? Est-ce que ça te...
J'ai pas entendu parler, mais plutôt curieux. Après, faut le temps pour regarder des séries, donc
ouais.
c'est pas en ce moment ce que j'ai le plus, mais pourquoi pas, si on me dit suffisamment que c'est bien. D'abord, je dirais non, je ne vais pas regarder. Oui. Et ensuite, dans 6 mois, je regarderai un peu trop tard.
C'est très bien.
Une classique Mid.
Bon, on est avec Mid, et maintenant, on va jouer à Radio Mid. Oui, car j'adore jouer, et je sais que toi aussi. Donc, nous sommes en 2035. Radio Mid existe, c'est ta radio. Tu es patron de cette radio, voilà, ici. Et donc, je vais te poser des questions. Tu vas me donner un petit peu la direction artistique de cette radio.
Ok.
Quel sera le genre dominant sur Radio Mid en 2035?
Je pense qu'en 2035, c'est quoi, dans une dizaine d'années
20, ouais, 10 ans, c'est que 10 ans en fait, c'est vrai, oui.
Bon, ça va, tranquille, 2035, je continue la musique électronique, hein. Je pense qu'on mettra des mix, mais on mettra peut-être que des mix de DJ. Comme ça, on a le point de vue de quelqu'un. Des mix DJ, c'est toujours un grand plaisir à écouter, dans plein de conditions. Une histoire à écouter en musique. Non, mais ouais, mix de DJ, musique électronique.
Est-ce qu'en 2035, il reste encore des couplets? Ou est-ce qu'on ne fait que des refrains maintenant? Ou est-ce qu'on parle encore sur les chansons?
On parle en couplet, ouais. Non, ouais, bien sûr. Enfin, le couplet, en fait, souvent, le couplet, et on remarque, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais il sert souvent à mettre en valeur le refrain, quoi. Souvent, c'est pour attendre un bon refrain. Donc, évidemment, le couplet ne disparaîtra jamais.
C'est quoi, pour toi, un refrain parfait? Est-ce que tu as un exemple d'un refrain parfait dans une chanson?
Un refrain parfait, c'est justement toute l'émotion concentrée en un moment. Il n'y a pas vraiment de refrain parfait parce que, justement, et c'est ça qui est intéressant par rapport au couplet, c'est que un couplet mal foutu peut foutre
en l'air
un refrain. Il y a des refrains instrumentaux qui sont magnifiques. Il y a des morceaux sans vraiment de refrain, mais qui sont peut-être un refrain à eux-mêmes. Je pense à un Praise You de Fatboy Slim où il y a que une il y a des couplets, mais le refrain, c'est peut-être ça un des refrains parfaits, quoi.
Praise You de Fatboy Slim.
C'est un de mes morceaux préférés. Mais oui évidemment, je suis, tu sais, il y a plusieurs niveaux pour moi de morceaux que j'ai dans la vie. Les morceaux dont je m'en fous, les morceaux que j'aime et les morceaux dont je suis jaloux. Je suis jaloux de Praise You de Fatboy Slim.
Sur ta radio, tu as droit à un talk show tous les soirs. Ça parle de quoi ?
Talk show, moi je fais libre antenne évidemment.
Évidemment.
Moi j'écoutais dans mon lit étant petit, j'écoutais Difool.
T'écoutais Difool ? T'as envie de faire Difool ?
Non. Tranquille.
Non, mais j'essaie de comprendre.
Non, mais talk show, moi j'aime qu'on puisse appeler, j'aime qu'on puisse discuter, j'aime qu'on soit assez proche du public et qu'il puisse participer. Et ce que j'adore avec le téléphone, c'est qu'il y a quand même une certaine... Les gens ne disent pas n'importe quoi, contrairement à... J'ai toujours un peu peur quand je fais du Twitch, ça m'arrive parfois, de l'espèce de diarrhée verbale qui arrive, et plein de mots, et plein de... Tu vois, là, quand on prend le téléphone, allô, oui, qui est à l'appareil,
tu vois, t'as l'impression que le téléphone filtre un petit peu, alors que sur un commentaire, on se lâche un peu plus.
C'est un petit peu plus solennel, donc disons une libre antenne à définir sur le thème, mais peut-être un thème par soir. On peut commencer par...
Ouais.
Couplet ou refrain.
Tu donnes une émission à un artiste, tu choisis qui et qu'est-ce qu'il y fait?
Je pense que une émission à un artiste, ce qui pourrait être intéressant, peut-être un... Ah oui, on est en 2035.
Oui.
L'émission est filmée.
Elle peut, c'est ta radio.
Bien sûr, l'émission est filmée, est en direct sur une nouvelle plateforme qu'on ne connaît pas encore, un nouveau réseau social d'ailleurs. Je laisse une émission de magie, alors j'adore la magie.
Ah ouais ?
Ouais, j'adore les tours de magie. Il y a champion du monde de magie qui s'appelle Marc Hobby, que j'apprécie beaucoup, champion du monde de cartes. Donc je pense que première émission, je lui laisse et j'aimerais que... entre une bonne sélection musicale, il nous explique quelques tours de magie pour impressionner ses amis.
Qu'est-ce qui te fascine autant dans la magie ? Est-ce que c'est important de révéler les secrets des tours de magie ?
Intéressant, peut-être qu'il ne doit pas les révéler.
Ah oui !
Intéressant, non !
Tu es en train de lui foutre en l'air son business, là ?
J'avoue. Désolé, s'il m'écoute, je l'embrasse.
Mais même plus largement, est-ce que même pour toi, sur la musique, est-ce que c'est important de tout expliquer ?
Tu sais, non.
Maintenant, on filme les beatmakers, les producteurs dans les studios, et parfois on révèle des secrets qui, à l'époque, n'étaient pas révélés. Est-ce que ça démystifie peut-être un peu trop la figure du musicien ?
Je pense qu'il faut faire attention. Je pense que c'est pas la question n'est pas de est-ce qu'il faut révéler ou pas révéler. Je pense que ce qui peut être un peu dangereux pour le milieu et pour les jeunes producteurs et les jeunes compositeurs et les jeunes artistes, c'est de révéler, mais en donnant comme s'il y avait des formules magiques pour le coup. Je suis assez contre et je sais que ça démotive pas mal d'artistes. Le fait de dire les 5 trucs pour réussir le meilleur beat de techno, les 4 trucs pour faire un tube. Si votre refrain n'a pas ça, ce n'est pas un tube. C'est faux et c'est mauvais et je pense que c'est toxique pour la musique et la créativité. J'ai vraiment l'impression de voir Weight Watchers en 90 qui veut faire maigrir en 5 leçons. Quoi. Ça n'existe pas, quoi. C'est pas sain. Et donc, je pense que si on montre, montrons vraiment ce que c'est de regarder. Par exemple, il y a ce documentaire sur les Beatles qui était sur Disney+, qui est assez excellent, où en fait on les voit et on voit que c'est lent et on voit qu'ils galèrent et on voit qu'il y a des problèmes de communication, mais en même temps il y a des moments d'épiphanie et je trouve ça assez beau que la musique au final, ça ne change pas tant quoi, dans la manière de créer et c'est important de le montrer comme ça.
Très bien, je te propose qu'on écoute un troisième morceau et on va partir en Australie cette fois avec Parcells, un groupe que tu connais, j'imagine. On va s'écouter le morceau You Got Me Feeling, extrait de l'album Love qui sortira le 12 septembre. Le titre reprend tout ce qu'on aime chez eux, les harmonies vocales, le groove funky et cette vibe disco moderne qui donne envie de bouger sans s'arrêter. Hey. You got me feeling like I'm uninvited. You got me feeling like I'm just outside. You got me feeling like I won't even like it. You got me feeling. You got me feeling like I'm unexcited. You got me feeling. Marcel's You Got Me Feeling, extrait de l'album à venir, Loved.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Nous sommes avec Mid qui vient de sortir le très bon album Midnight et c'est l'heure des recommandations. Je t'ai demandé des recommandations, tu m'en as donné, on va y venir, mais avant toute chose, comme tu es venu et qu'on a parlé de house, de musique électronique, j'avais envie, moi, de donner une petite recommandation. Alors, pas à toi, car je suis sûr que tu le connais déjà, mais peut-être à quelques auditeurs ou auditrices qui ne connaissent pas cet immense classique que j'écoute et que je réécoute extrêmement régulièrement, Hard Drive, Deep Inside. Hard Drive, Deep Inside, qui pour moi est un morceau absolument parfait. Est-ce que tu m'as dit en antenne que tu as adoré contredire. Est-ce que tu vas me contredire sur ce morceau ou pas?
On a dit qu'on disait pas ce qu'on disait en
antenne.
Non, évidemment, c'est un classique de la house music. Peut-être si en première page de house music.
Oui, oui, moi c'est la house pour les nuls. Hein. Je suis pas aussi connaisseur que toi.
Non,
c'est la house pour les
débutants. Non, mais c'est un morceau même que je joue en DJ set.
J'ai posé la question. Est-ce que tu le joues? Oui.
Même le sample pendant mon live, je le joue aussi. Donc, c'est un classique quoi. C'est un classique. Ça fait plaisir de l'entendre et qui ne vieillit pas en fait.
Exactement. Toi, tu m'as donné évidemment tes recommandations et notamment un album que je ne connaissais pas de Jerry Red, j'espère bien le prononcer. L'album s'appelle Love Can Go The Distance. Et donc ça, c'est un extrait du morceau I Don't Know The Meaning. Pourquoi cette recommandation?
Pour moi, c'est une masterclass de sampling venue d'un artiste de musique électronique donc qui a fait quelques morceaux qui ont vraiment marqué, qui sont joués par beaucoup de DJ. Jerry Reed, champion du sample, mais là, il est allé dans cet album. Donc c'est un album qui fait plus de 20 titres. Je crois qu'il doit bien faire plus de 2 heures.
Avec une cover de l'album assez géniale. Hein. J'encourage tout le monde à aller regarder la cover de l'album.
Ouais, mais justement, je trouve qu'on se concentre. Lui, il n'a pas particulièrement de personnage, de DA. Ouais. Et la preuve avec cette pochette, vous irez la voir. Et là, il sample justement sans concession. L'album est complètement déconstruit. C'est des bouts de sample qui vont les uns avec les autres. Et on est vraiment... je trouve que c'est une sorte de synthèse du sampling, c'est-à-dire on est dans l'émotion du sampling, c'est-à-dire ça sonne usé, ça sonne fatigué, ça sonne un peu tout cassé. On est presque dans une version disco de Aphex Twin. J'adore ça et lui il a un talent fou, il est excellent, Jerry Reed. Ouais.
Ok. Alors tu parlais de sampling. On samplait beaucoup avant, puis il y a eu beaucoup de procès, des choses qui ont fait que c'est plus compliqué de sampler. Est-ce que toi tu samples de manière libre sur tes albums? Est-ce que tu te mets des barrières? Comment tu es par rapport au sample?
Sur ce nouvel album, je me suis permis de sampler.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de samples sur le dernier album.
J'avais besoin de me remettre dans un esprit d'être assez libre sur ce disque et revenant justement de club et de musique très samplée. Et en plus, il y a forcément l'héritage de la musique française samplée, mais la musique aussi anglaise que j'adore, musique électronique. Donc sur celui-là, sur le premier album, Pedro Winter, donc, qui est le boss de Headbanger, donc m'avait dit: tu as le droit à un sample. Et je lui ai dit, j'ai respecté la règle sur mon premier album, sur celui-là, je ne respecterai
pas
la règle.
Tu n'as pas écouté Pedro.
à son grand malheur et en même temps à son bonheur, parce que ça a donné des morceaux comme Song For You, qui sont un morceau qui partent à la base d'un sample que j'adore.
Bien sûr.
Et donc, je me permets de sampler. Bon, forcément, derrière, il y a tout un processus juridique. Il faut clearer
les samples, donc il faut déclarer les samples. Bon, sampler, on peut le rappeler pour celles ceux qui ne savent pas, c'est quand on prend un échantillon d'un morceau déjà existant et qu'à partir de cet échantillon, de cette boucle, on crée une nouvelle mélodie inspirée plus ou moins librement de ce premier
morceau. Et le sampling, c'est magique, quoi. C'est-à-dire on prend un morceau et tout son héritage, la manière dont il a été enregistré lui-même, on lui redonne un contexte. C'est vraiment mettre un meuble ancien dans un nouvel appartement. Je sais pas, il y a quelque chose de beaucoup plus charmant parfois que qu'avoir un meuble tout neuf.
Tu as donné une autre recommandation, un compte Instagram, My Hotel Carpet.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ça?
En fait, c'est un compte pareil. Tu vois, je te parlais des niveaux d'envie et c'est un compte que j'aurais beaucoup aimé faire. Donc, c'est un pilote d'avion qui voyage beaucoup dans le monde entier. Et il a remarqué, si vous voyagez beaucoup et que vous nous écoutez, vous voyez que dans les hôtels, le sol, donc en fait, il a certaines textures, certains motifs, certaines couleurs et souvent qui sont faits pour pas qu'on voit les taches. Ça sert à ça. Et donc, souvent, c'est des motifs très compliqués. Aux États-Unis particulièrement, ils sont très bons avec ça, mais très mauvais parce que ça fait des tapis très moches. Bref, j'en viens au compte. Il a décidé de photographier dans ses voyages tous les tapis et moquettes d'hôtels du monde entier, de là où il voyage. Et c'est assez excellent, c'est assez poétique. On est dans quelque chose du souvenir, d'assez beau et peut-être... plus original et créatif que si il nous faisait un énième coucher de soleil quelque part dans le monde.
Moi, quand j'ai vu ça, donc je suis allé regarder évidemment, et quand je vois des tapis d'hôtel, je pense immédiatement à Shining de Kubrick.
Ouais.
Est-ce que toi aussi? Moi, ça m'a directement rappelé Shining, évidemment, cette scène avec les deux petites filles. Pour moi, c'est complètement associé.
C'est hyper intéressant. On parle un peu des choses importantes et surtout de qu'est-ce qui est important dans une œuvre. Dans Shining, il réussit à nous faire nous souvenir d'un tapis, alors qu'il fait un film, on peut appeler ça un film d'horreur.
Oui.
Et on se souvient du tapis dans un film. Qui réussit à faire ça? C'est magnifique.
Stanley Kubrick.
Et voilà.
Que lui, uniquement lui. Mid, c'est bien beau tout ça, mais c'est l'heure de la question qui tue. Tu vas me détester pour celle-ci. Alors, on parle de French Touch, etc. Finalement, est-ce que les Daft Punk, c'est surcoté?
Oh, waouh!
C'est la question que je te pose, voilà, on finit l'émission comme ça.
Non? Non, pas du tout.
Évidemment que non.
Évidemment que non. En fait, au final, ils n'ont pas produit tant de musique que ça en quantité. Ouais. Et la plupart de leurs morceaux sont devenus des classiques. Il y a peu de morceaux qu'on ne connaît pas, il y a peu de morceaux qui sont passés à la trappe. Tu sais, je dis souvent que dans une carrière, il faut être prolifique et il faut oser faire les choses parce que les choses bien, on s'en souviendra et les choses nulles, on les oubliera de toute façon et elles iront un peu, genre elles seront au loin quelque part à l'horizon. C'est pas du tout le cas avec Daft Punk qui en fait ont quasiment un sans faute dans leur carrière. Et Sans pour autant éviter de prendre des risques. Il y a des risques, des choix radicaux, des choix de DA que eux seuls auraient pu faire. Qui aurait pensé que mettre des casques de robots et être un duo de musique électronique était une idée cool? Qui aurait pensé ça?
Et est-ce que tu as un album préféré parmi les quatre qui sont sortis entre donc Discovery, enfin Homework, Discovery, Human After All, qui a fêté ses 20 ans d'ailleurs cette année, et le dernier, Random Access Memories?
Je pense que mon préféré, je vais évidemment dire le choix des puristes, je vais dire Alive 97.
Oh, il est relou.
Et oui, j'ai dit exactement, je suis relou, mais c'est la vérité, c'est un album que mon grand frère m'avait offert à Noël, donc il est sorti en 2007.
Oui, tout à fait.
Et je me souviens très bien l'écouter d'une traite sur ma chaîne Ifi, et ça, je pense que ça a changé ma vie. Tout simplement.
Ouais,
et je pense que
ça change la vie de beaucoup de gens.
Daft Punk sont des artistes qui changent la vie, font partie des artistes qui changent la vie des gens, qui traumatisent des producteurs, qui eux-mêmes changeront la vie d'autres personnes. C'est un effet cascade qui est assez passionnant. Et donc, ils ont changé ma vie. Aujourd'hui, je pense que mes lives sur scène seraient différents sans cet album. Je pense que mes DJ sets en club seraient différents sans cet album. Et mon amour de la fête vient sûrement de là.
Donc Daft Punk, c'est évidemment pas surcoté. Je m'excuse pour cette question.
Est-ce que tu pensais qu'il est...
Pas du tout, mais j'avais juste envie qu'on discute Daft Punk.
Tu dis ça maintenant que j'ai dit ça, mais...
Ouais, bien sûr, si t'avais dit que c'est sur côté, j'aurais dit, évidemment. Non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, on était avec Mead. Merci beaucoup, Mead, d'avoir
Merci
été avec
beaucoup.
Nous. Vraiment, c'était un plaisir. L'album Midnight est sorti vendredi dernier. Allez l'écouter, par pitié. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cette émission. Ces personnes, ce sont Alexia Lacour et Redouane Tella, indispensable, évidemment, pour cette émission. Une émission réalisée par Gaëtan Colli. Programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était l'excellent Mathias Alléon. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous recevrons la créatrice de contenu, Sally. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.